Le sujet dont je vais vous parler ce soir doit être aussi vieux que le monde. Et pourtant, il n'a rien perdu de son actualité, au contraire. Il est appelé à faire parler de lui de plus en plus. Ce que vous allez entendre ce soir, vous ne l'oublierez jamais, même si vous vous efforciez de ne plus y penser. Ne croyez pas à une sorte de pédanterie de ma part, parce que j'aurais parlé d'une façon telle que vous ne pourriez jamais l'oublier dû à mon éloquence. Non, non, pas du tout. Ce que vous allez entendre sera inoubliable dans le sens que vos voisins, la radio, la télévision, les journaux vous en reparleraient. Je vais vous parler des tremblements de terre. Nous savons tous ce qu'est un tremblement de terre pour en avoir entendu parler ou pour l'avoir ressenti à faible intensité. Pour employer une expression triviale pourtant due à la plume d'un savant, un tremblement de terre, c'est la croûte terrestre qui se met à vibrer un peu à la façon de la peau d'une vache quand une mouche vient la taquiner. Mais ce qui nous intéresse, c'est de connaître les causes des secousses telluriques. Et en voici deux. Premièrement, une cause naturelle et physique. Comme la peau d'une vache tremble sous l'effet d'une irritation, de même la croûte terrestre vibre sous l'effet de certaines irritations. Au temps où la science faisait ses premiers pas dans ce domaine, on croyait qu'il se produisait des crevasses dans le fond des océans et que de grandes quantités d'eau entraient en conflit avec les masses incandescentes au centre de la Terre, produisant de gigantesques déflagrations dont nous ressentions les effets en surface. Cette théorie dite du catastrophisme a été abandonnée et remplacée par celle des plaques tectoniques et de la dérive des continents. Pour plus de renseignements, prière de s'adresser aux travaux de l'éminent volcanologue que fut le regretté Haroun Taziev. Voici un court extrait de ce qu'il écrivait dans un journal de la presse helvétique. Je lis. 100 000, 500 000, 1 000 000 de morts en l'espace de quelques minutes. Imaginez-vous que cela puisse arriver autrement que par le déclenchement de quelque absurde guerre nucléaire? Non, sans doute. Et vous avez tort. Vous avez tort car l'évidence géologique a fini par me convaincre que jusqu'ici l'humanité a eu une chance prodigieuse et que les catastrophes de Pompéi et de Saint-Pierre de la Martinique ne sont rien à côté de ce qui l'attend. Il y a aussi une deuxième cause, d'ordre spirituel, et c'est celle qui va nous occuper à présent. Les tremblements de terre sont des phénomènes naturels, par lesquels notre attention devrait être attirée sur des faits d'une valeur spirituelle très importante. La Bible nous en parle à plusieurs reprises. Je vous lis ces paroles que je trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 27 et à partir du verset 50. Nous sommes dans la finale de la Passion du Seigneur. Et je lis que Jésus, en croix donc, poussa un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, la terre trembla. Les rochers se fendirent, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». L'événement que je viens de lire est le centre de l'éternité et d'une portée universelle au sens le plus large du terme. De quoi s'agit-il? De la mise à mort de 3 condamnés. Et le fait eût été sans importance, et ne serait jamais parvenu jusqu'à nous si l'un des trois n'avait été le Fils de Dieu. Toutes les puissances du ciel et de l'enfer étaient dépêchées en observation autour de la croix. Jésus-Christ livrait au prince des ténèbres la bataille décisive qui allait lui ravir la suprématie sur l'enfer et sur la mort. Le salut de centaines de millions d'âmes était en jeu, le salut de mon âme et de la vôtre. D'un côté, il y avait Jésus-Christ, qui venait pour expier les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. De l'autre côté, il y avait Satan et ses émissaires qui, sachant que leur défaite s'approchait à mesure que s'approchait la mort du Seigneur, tentaient de le dissuader de poursuivre son œuvre en l'incitant à descendre de la croix par ce défi « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Si par sa mort, Jésus allait, comme il est écrit, goûter la mort pour tous, tous ceux qui désormais mettraient leur confiance en lui allaient échapper à la puissance du prince de la mort et lui glisser entre les doigts. Et comme Satan est le plus implacable ennemi de la race humaine, tous ses efforts se sont concentrés sur le Fils de Dieu pour essayer de le détourner de son but. Au paroxysme de la souffrance, il s'est bien écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il a tenu jusqu'au bout, jusqu'au moment où le cœur a cédé et où, ayant poussé un grand cri, il rendit l'esprit. Et à ce moment précis, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Le temple de Jérusalem vacilla sur ses bases, et le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et dont les historiens disent qu'il avait 30 centimètres d'épaisseur, ce voile se déchira en deux du haut en bas, comme une vieille toile de coton. Croyez-vous que ce soit par hasard que la terre ait tremblé à ce moment précis ? Permettez-moi de vous poser une question. Votre cœur a-t-il jamais tremblé au récit de la mort de Jésus pour vous? Votre cœur serait-il plus dur que la rocaille qui, elle, s'est fendue? Votre cœur serait-il plus dur que celui de ce rude centenier romain qui a vibré et qui n'a pas pu retenir ce cri? Certainement, cet homme était le juste Fils de Dieu. Je vous lis à présent, et je tourne la page de la Bible du chapitre 27, je passe au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, je lis « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. » Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler de la pierre, s'assit dessus et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez rien, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité. » Nous sommes ici au premier jour de la semaine. C'est le troisième jour qui suit le sinistre vendredi de la crucifixion et de la mise au tombeau. Le corps sans vie du Seigneur a été descendu de la croix et déposé dans le tombeau d'un certain Joseph d'Arimathée. Une garde a été postée pour s'assurer que le corps resterait bien dans le sépulcre. Dès avant l'aube, deux femmes se rendent au tombeau. Leur âme est comme l'ombre qui les entoure. Leur maître bien-aimé en qui elles avaient espéré était mort. Elle distingue les gardes qui sont de faction autour d'un tombeau dont l'ouverture est scellée d'une lourde pierre. Elles apportent des aromates pour embaumer son corps, mais comment vont-elles faire? Savent-elles au juste ce qu'elles sont venues y faire? Tout à coup, à 3 jours d'intervalle, la terre se met à trembler au point que les sentinelles, prises de panique, tremblent de peur. un personnage éblouissant de clarté roule la lourde pierre et s'assied dessus, et le tremblement de terre est accompagné de la nouvelle la plus stupéfiante qu'oreille humaine ait jamais entendue. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Un tremblement de terre a salué l'annonce de la résurrection de Jésus-Christ. Croyez-vous que ce soit par hasard que la terre ait tremblé à ce moment précis? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de l'événement et de la doctrine qui en découle. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, exprime deux pensées à ce sujet. Voici la première. Si Jésus n'est pas ressuscité, la prédication de l'Évangile est vaine. La foi aussi est vaine. Ceux qui croient sont encore dans leur péché, ceux qui sont morts sont perdus, et ceux qui espèrent en Christ sont les plus malheureux de tous les hommes. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 15. Et la deuxième pensée, ayant dit cela, Paul, preuve à l'appui, affirme avec force, mais maintenant, Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Le développé de tout ceci est à lire tout entier dans 1 Corinthiens 15. La preuve que Jésus n'est pas mort comme les autres hommes, c'est que, comme les autres hommes, il n'est pas resté dans la mort. La résurrection de Jésus est la preuve que nous avons une espérance aussi vivante que lui est vivant. Je continue, et je rappelle. Un tremblement de terre a salué la mort de Jésus-Christ. Un autre tremblement a salué l'annonce de sa résurrection. Et maintenant, une série de tremblements de terre annonce son prochain retour. Avant de quitter les siens, le Seigneur ne les a pas laissés sans consolation. C'est en ces termes qu'il leur a dit qu'il reviendrait. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous y préparer une place, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On trouve ça dans Jean 14. Il ne leur a pas révélé la date de son retour. Et il leur a même interdit de chercher à le savoir. Mais il leur a donné des signes avant-coureurs de son retour. Parmi ces signes, nous relèverons, sans nous y arrêter, la rentrée du peuple juif dans son pays d'origine, la Palestine. Sujet que j'ai traité en détail dans une autre occasion. Il y aura aussi l'apparition de phénomènes inexplicables comme des signes dans le ciel, dirons-nous des ovnis, objets volants non identifiés. Il y aura une déferlante de gourous, de violence, de corruption, de belligérance à l'échelle mondiale et une multiplication des tremblements de terre prophétisés par le Seigneur lui-même en ces termes. Jésus se mit à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi », c'est-à-dire les gourous, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, il y aura, et je souligne, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, ce ne sera que le commencement des douleurs. Je viens de lire cela dans l'Évangile de Marc au chapitre 13. Quelqu'un me dira peut-être que des tremblements de terre, il y en a toujours eu, et que par conséquent, ils ne peuvent pas être un des signes du retour de Jésus-Christ. Il est vrai que pour les Japonais, chez qui la terre tremblote si souvent que l'idée que ce soit un signe ne les impressionnera pas. Mais il y a une précision donnée par le Seigneur qui force notre attention. Il a parlé de ce coup stellurique, non seulement sur une ligne de faille où l'écorce terrestre présente des faiblesses, mais il a précisé que cela se produirait en divers lieux. Et nos savants reconnaissent d'ailleurs que ces phénomènes se généralisent un peu partout sur la surface de notre globe. Suite à une secousse sismique importante au Maroc, j'ai relevé ce commentaire d'un spécialiste, le Maroc n'est pas un pays où la terre est fréquemment secouée. En me fiant aux déclarations de la Bible, que je tiens pour inspirée de Dieu, j'ai entrepris une collection d'un genre nouveau. J'ai guetté toutes les nouvelles des tremblements de terre d'intensité variable rapportées dans mon journal et je les ai découpées et collées dans un album. Il ne m'a pas fallu longtemps pour le remplir tout entier jusque sur les pages de garde. Pour mieux vous faire saisir la réalité de ce « en divers lieux », j'ai mis ces lieux, des pays, villes importantes ou régions, je les ai mises par ordre alphabétique, et je vous en livre le résultat actuel. Quand j'étais haut comme trois pommes, j'ai appris à l'école l'alphabet A, B, C. Et je commence. Alger, Afghanistan, Açores, Acapulco, Aléoutienne. Et puis, Barcelone, Brest, Bad Hersfeld, Bologne, Bogota, Caen, Catanzaro, Cherbourg, Derby, El Asnam, Ebingen, Fairbanks, Fribourg, Florence, le Frioul, Graz, Guatemala, Hawaï, Hualien, Istanbul, Izmir, Java, Juneau, Kurdistan, Kermadec, Klagenfurt, Kobe, Londres, Le Caire, La Louvière, Lisbonne, Mexico, Marseille, Manille, Morlaix, Milan, Nantes, Nice, Nouvelles Hébrides, Oslo, Okinawa, Pérou, Pasadena, Quito, Raguse, Rome, Santiago, San Francisco, Stuttgart, San Salvador, Téhéran, Tokyo, Tunis, Turin, Vienne, Vulcano, Württemberg, Yellowstone, Zélande et Zurich. La Bible va plus loin quand elle nous en parle d'ébranlement. Elle dit que les puissances des cieux seront ébranlées, c'est-à-dire que les démons redoublent d'efforts. La Bible nous dit encore, les nations ne sauront plus que faire, c'est-à-dire que les structures de la civilisation s'effritent et s'effondrent. Elle va plus loin encore et elle dit « Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, c'est-à-dire que les éléments de la nature se détraquent. » Autrement dit, chacun à sa façon se prépare pour le retour de Jésus-Christ. À mon tour de vous demander si vous êtes prêts pour ce grand événement. Quatrièmement, jamais on n'a entendu dire que les hommes aient souhaité des cataclysmes de ce genre. Demandez à ceux qui ont vécu les tragédies du Frioul en Italie, du Kobe au Japon ou d'Izmir en Turquie. Tous vous diront qu'ils ont peur des fléaux de la nature. Et pourtant les jours viennent où des hommes qui ont désappris à lever les yeux vers le ciel, qui ont désappris à prier, vont prier le ciel de leur envoyer des tremblements de terre. Voici ce qu'on lit en Apocalypse 6, verset 12. « Quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Du haut en bas de l'échelle sociale, les hommes tremblent et désirent un cataclysme qui leur offrira un refuge devant celui qui vient. Quels sont ceux qui tremblent et qui prient? Ce sont ceux qui n'ont pas tremblé à la pensée de leur péché et qui n'ont pas prié pour en avoir le pardon. Ce sont ceux qui ont tourné le dos à la grâce de Dieu et qui ont dit non à Jésus-Christ quand il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ce jour, par un de ces paradoxes dont se sert l'Écriture, c'est encore l'agneau de Dieu, mais il est animé de sa colère. Et dans leur épouvante, ils invoquent un Dieu qu'ils ont méconnu pour que la terre tremble, pour que des cavernes s'ouvrent au flanc des montagnes et pour que des rochers tombent et en obturent l'entrée. L'heure J du jugement a sonné, et la terreur est telle que pour la première fois dans l'histoire du monde, les hommes désirent ce qu'ils ont toujours craint. Il y a quelques années au Chili, lors de violentes secousses sismiques, on a vu des hommes se jeter à genoux en pleine rue et demander au ciel d'arrêter le tremblement de terre. Ici, c'est le contraire. Ils implorent le ciel de leur envoyer un cataclysme qui leur paraît plus supportable que d'affronter le juste jugement de Dieu. Mes amis, si vous refusez le seul refuge que Dieu offre en Jésus-Christ, vous vous préparez pour ce jour-là. Ils demandent que les rochers se fendent, que des cavernes s'ouvrent au flanc des montagnes, qu'ils puissent s'y engouffrer, et que derrière eux des tonnes de matériaux tombent pour en obturer l'entrée. Mes amis, n'attendez pas. N'attendez pas que sa grâce se change en jugement et son amour en colère, mais que plutôt, comme pour ces deux femmes qui cherchaient le Seigneur en allant au sépulcre, vous entendiez la promesse « Pour vous, ne craignez pas. » Je continue encore un autre chapitre. C'est le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres qui nous fait assister maintenant à une réunion de prière des chrétiens persécutés de l'Église des premiers temps, dont voici un abrégé à partir du verset 24. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Je répète, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Un ami chrétien, dont le ministère s'exerçait surtout au niveau de la cure d'âme, et qui avait à combattre, comme le dit l'Écriture, contre les dominations, autorités des princes des ténèbres et les esprits de méchanceté dont parle l'Épître aux Éphésiens, cet ami m'a dit un jour que, comme cela se passe dans les évangiles, un démon avait crié par la bouche d'un possédé, écoutez bien ça, « Quand les chrétiens prient, nous les démons nous tremblons. » Et en réponse à la prière de ces chrétiens de la première heure, l'enfer a dû trembler au point qu'un tremblement de terre limité a secoué le lieu où ils étaient réunis. Voyez-vous, les premiers chrétiens croyaient à la puissance de la prière. Pour eux, la prière, ce n'était pas un rite, c'était un besoin. Ce n'était pas un petit acte de piété, c'était un impératif. Ce n'était pas la récitation monotone de prières apprises par cœur, c'était une conversation intense avec Dieu. Sommes-nous dès lors étonnés que l'enfer tremblait en profondeur et en surface, et que les premiers disciples sortaient de là remplis du Saint-Esprit pour annoncer la parole de Dieu? Je veux maintenant vous transporter au ciel par la pensée et par la Bible, et vous faire voir ce qui se passe au ciel quand sur la terre les chrétiens prient. Dans l'Apocalypse, au chapitre 8, versets 3 à 5, l'apôtre Jean nous transmet une vision céleste empruntée en partie à l'Ancien Testament. Je lis. « Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints, de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. » Dans cette vision, on voit un ange qui représente le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ, selon ce qu'en dit 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. On y voit donc le Seigneur qui retransmet devant le trône de Dieu les demandes de ceux qui sont en prière sur cette terre. Avant d'aller plus loin, permettez-moi une courte digression sous forme de question. Quand quelqu'un prie, jusqu'où monte sa prière? Qu'en pensez-vous? Ma réponse va vous étonner et peut-être même vous scandaliser en un premier temps. Les prières les plus ferventes ne montent pas plus haut que le plafond. Ou jusqu'au premier étage, avec le risque d'importuner les voisins si vous priez fenêtres ouvertes et à tue-tête. Maintenant, ne me prenez pas pour un mécréant avant de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous regardez bien le texte que je viens de lire, vous verrez que ces prières sont, sont alliées au parfum de l'ange devant Dieu. C'est-à-dire que nos prières ne parviennent jusqu'au ciel que si elles sont alliées au parfum des perfections de Jésus-Christ, qui est notre seul représentant devant Dieu. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, comme aussi dans toutes les églises évangéliques du monde, chaque prière est ponctuée du « au nom de Jésus-Christ ». Ce n'est pas là une formule magique, c'est la foi en la valeur de l'unique médiation de Jésus-Christ. Et ainsi fait en son nom, les prières les plus secrètes, traversant les espaces intersidéraux, sont, en temps réel, comme on dit aujourd'hui, entendues devant le trône de Dieu, parce qu'elles sont faites au nom de Jésus-Christ, notre seul représentant devant Dieu. C'est ce qui s'est passé en Apocalypse 8. Et la réponse est venue sous forme de voix, de coups de tonnerre, d'éclairs et d'un tremblement de terre. C'est ce qui s'est passé en Acte 4, évoqué plus haut, où le lieu où ils étaient assemblés trembla, où ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé en Acte 16, où, dans la sombre prison de la ville de Philippe en Grèce, Paul et Silas, battus jusqu'au sang et enchaînés, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et en réponse à ces prières, non seulement l'enfer a tremblé, mais un tremblement de terre a secoué la ville, au point que les chaînes des prisonniers se sont descellées, et que les portes de la prison sont sorties de leurs gonds, et qu'en finale, le geôlier, toute sa famille, et tous ceux qui étaient avec lui dans sa maison, se sont convertis au Seigneur. Quelqu'un me reprochera peut-être d'évoquer des faits réels, peut-être, mais dépassés et n'ayant aucun équivalent dans notre monde d'aujourd'hui. Quelqu'un dira ou pensera que je suis vieux jeu et poussiéreux comme une salle de musée. Peut-être même que quelqu'un ironisera en me posant une question pertinente en rapport avec le sujet traité, et me disent, si je suis un jour incarcéré à la prison la plus proche, et ici je pourrais invoquer, puisqu'on est à Paris, la prison de Fresnes, et que du fond de ma cellule, je me mets à prier Dieu pour que, comme vous le dites, au nom de Jésus-Christ, les portes de la liberté, est-ce que ces portes de la liberté me seront-elles ouvertes par un tremblement de terre? Et vous me dites, c'est bien ce que vous avez dit, non? Ma réponse est celle-ci. Mes amis, il y a plus et mieux que de prier pour sortir de prison par un tremblement de terre, c'est de prier pour ne pas aller en prison. Et croyez-moi, tous ceux qui y sont ne le sont pas pour avoir trop prié. Et il est certain que s'ils avaient prié un peu plus, ils n'y seraient pas en prison. Mais pour rester dans le sujet, notre âme, elle, est prisonnière de beaucoup de choses dont elle ne peut se libérer. Et c'est ce que on pourrait appeler des, selon le titre d'un grand film autrefois, paraît-il, prison sans barreaux. J'ai rencontré un homme. Cet homme était prisonnier de la boisson. Au départ, il s'est moqué de la délivrance que je lui proposais. Mais il a fini par me dire, « Je donnerais volontiers 500 euros pour être délivré de la boisson. 500 euros !» Sans doute, ce qu'il allait dépenser ce soir-là au bistrot avec les copains. Notre âme peut être prisonnière de la peur. Peur du passé, peur de l'avenir, peur des microbes, peur de vieillir, peur de mourir. Elle peut être prisonnière de l'orgueil, de ce numéro un mondial qui fait pivoter l'univers autour de sa petite personne, et qui aimerait que tous les autres acclament ses exploits. Notre âme est peut-être enfermée dans la cellule d'une jalousie maladive dont elle ne peut se sortir, comme cette jeune femme qui m'a raconté qu'avant de connaître le Seigneur, elle était sans raison d'une jalousie féroce envers son mari. S'il avait le malheur de tirer son peigne de sa poche, elle devenait comme une tigresse et lui demandait avec virulence « Pour qui est-ce que tu te peignes ?» Lorsqu'elle s'est tournée vers le Seigneur, elle a été entièrement délivrée de cette prison de la jalousie. Notre âme est peut-être prisonnière d'un fichu caractère à répétition qui fait souffrir son entourage. Prisonnière d'un tempérament emporté, colérique, incapable de se contrôler, prisonnière de l'impureté, prisonnière de la pornographie, prisonnière des frivolités mondaines, prisonnière de sa langue et incapable de la maîtriser, prisonnière de l'opinion des autres, du qu'en dira-t-on, prisonnière de l'amour de l'argent, prisonnière de l'avarice, prisonnière de prisonnière. Ah, il y en a des prisons sans barreaux. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Voici ce que dit Dieu au travers de son prophète Ésaïe. Et je vous lis le texte dans Ésaïe 66, verset 2, version Darby. Voici, dit l'Éternel, sur qui je porterai mes regards, sur l'affligé, sur celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. L'intervention de Dieu est promise à celui qui regrette ses fautes au point d'en être affligé et qui tremble à la parole de Dieu, dans ce sens qu'il ne la prend pas à la légère, mais avec un tremblement de l'âme qui fait sortir de leurs gonds les portes de nos prisons intérieures, qui brise les portes des reins et rompt les verrous de fer, comme le dit le psaume 107 au verset 16. Si donc vous vous adressiez à lui dans les termes ci-dessus, comme je viens de les énoncer, votre âme vibrerait d'une émotion nouvelle, et les portes de votre captivité intérieure s'ouvriraient pour vous faire découvrir d'autres horizons que ceux dans lesquels vous êtes encore enfermés. Adressez-vous à lui en cet instant, avec les quelques mots qui suivent, que vous pouvez répéter s'ils vous conviennent. Je vais vous demander de vous incliner, nous allons tous oublier ceux qui sont à côté de nous, fermer les yeux, élever nos âmes vers le Seigneur et vous pouvez lui dire, suivre la prière, la prendre à votre compte et lui dire, alors que je parle spontanément, je parle lentement, Seigneur, dites-lui, Seigneur. Seigneur, eh bien, ce soir, je prends ta parole au sérieux, plus que je ne l'ai jamais fait. Seigneur, je tremble avec le capitaine romain, avec la terre qui a tremblé à la mort de ton fils sur la croix pour le pardon de mes péchés. Dites-le-lui. Seigneur, je crois, et je tremble avec les femmes qui ont salué ta résurrection. Dites-lui, Seigneur, je crois et je tremble à l'idée de ne pas être prêt pour ton retour. Seigneur, je me donne à toi pour te servir, pour te suivre et t'obéir jusqu'au bout. Dites-lui, Seigneur, accueille ma repentance et la foi que je mets dans le grand amour que tu as eu pour moi. Merci, Seigneur, de me pardonner et de me sauver ce soir. Merci, déverse la paix de ton ciel dans mon cœur maintenant. Merci, Seigneur. Amen.